Chapitre 9. Où Jones fait une visite à Mrs. Fitzpatrick. Le lecteur sera peut-être maintenant charmé de retourner avec nous à M. Jones, qui, à l'heure convenue, se rendit chez Mrs. Fitzpatrick. Mais avant de rapporter la conversation qui eut lieu alors, il peut être à propos, suivant notre méthode ordinaire, de rétrograder un peu et d'expliquer un si grand changement dans la conduite de cette dame, qui, après avoir quitté son logement, principalement pour éviter M. Jones, avait, comme on l'a vu, recherché si habilement cette entrevue. Et pour cela, nous n'aurons besoin que de rappeler ce qui s'était passé la veille, lorsqu'ayant appris de Lady Bellaston que M. Weston était arrivé à Londres, elle était allée lui rendre ses devoirs à son logement dans Piccadilly. Elle y fut reçue avec une foule d'apostrophes injurieuses, trop grossières pour être répétées, et fut même menacée d'être mise à la porte à coups de pied. Un vieux domestique de sa tante Weston, qui la connaissait particulièrement, la conduisit de là au logement de cette dame, qui ne la traita pas plus favorablement, mais plus poliment, ou pour dire la vérité, avec une brutalité d'une autre espèce. En un mot, elle revint de chez tous deux, pleinement convaincue, non seulement que son projet de réconciliation avait complètement échoué, mais qu'il lui fallait abandonner toute idée de le reprendre, quelque nouveau moyen qu'elle pût imaginer pour cela. Dès ce moment, son cœur ne fut plus rempli que du désir de se venger. Ce fut dans cette disposition que, rencontrant Jones au spectacle, elle crut que c'était une occasion favorable de mettre ce projet à exécution. Le lecteur doit se souvenir que dans le récit de son histoire, Mrs. Fitzpatrick a parlé de la passion que Mrs. Weston avait autrefois conçue à Bath pour M. Fitzpatrick, et que ce fut à la douleur d'avoir été trompée par lui que Mrs. Fitzpatrick attribuait l'extrême rigueur que sa tante lui avait toujours témoignée depuis. Elle ne faisait donc aucun doute que cette bonne dame ne se montra aussi facile à recevoir les soins de M. Jones qu'elle l'avait été à recevoir ceux de Fitzpatrick. Car la supériorité de la figure était clairement du côté de M. Jones, et l'avance que sa tante avait prise depuis dans le sentier de la vie lui semblait plutôt, avait-elle tort ou raison, un argument pour que contre son projet. En conséquence, lorsque Jones arriva chez elle, après l'avoir préalablement assuré du désir qu'elle avait de lui rendre service, désir fondé, disait-elle, sur la ferme assurance qu'en agissant ainsi, elle obligerait extrêmement Sophie. Après lui avoir fait quelques excuses de lui avoir manqué précédemment de parole et lui avoir appris de qui Sophie était prisonnière, ce dont elle ne le croyait pas instruit, elle lui expliqua son plan très en détail et lui conseilla de feindre de rendre des soins à la vieille dame pour se procurer un accès facile auprès de la plus jeune, l'instruisant en même temps du succès que M. Fitzpatrick avait dû autrefois au même stratagème. M. Jones montra beaucoup de reconnaissance à la dame pour les obligeantes intentions qu'elle lui témoignait, et lui prouvait même par cette proposition. Mais après lui avoir laissé entrevoir quelques défiances du succès, fondées sur ce que Mrs. Weston connaissait son amour pour sa nièce, ce qui n'avait pas eu lieu à l'égard de M. Fitzpatrick, il lui dit qu'il craignait que Miss Weston ne voulût jamais consentir à une supercherie de cette nature, tant par la profonde aversion qu'elle avait pour toute espèce de fausseté, qu'à cause du respect qu'elle avait toujours montré pour sa tante. Mrs. Fitzpatrick fut un peu piquée de cette réponse, et en effet, si ce n'était pas de la part de Jones une simple inadvertance, c'était un léger manque de politesse, dont il ne se serait sûrement pas rendu coupable si le plaisir de louer Sophie lui eût laissé le temps de réfléchir un moment. Car cet éloge d'une cousine était plus qu'une critique tacite de l'autre. « Assurément, monsieur, répondit la dame avec quelque chaleur, je suis sûr qu'il n'y a rien de plus aisé que de tromper une vieille femme par une déclaration d'amour, car elle est de complexion amoureuse. Et quoi qu'elle soit ma tante, je dois dire qu'il n'y en eut jamais de plus facile à s'enflammer. Ne pouvez-vous pas prétexter que le désespoir de posséder sa nièce, puisqu'elle est promise à Blifil, vous a fait tourner vos vues sur elle? Quant à ma cousine Sophie, je ne puis la croire assez simple pour avoir le moindre scrupule à cet égard, ou pour supposer aucun mal à punir une de ces vieilles sorcières de tous les malheurs qu'elles causent à leur famille, par leur passion tragicomique, passion dont il est véritablement fâcheux qu'elle ne soit pas punie par la loi. Je n'eus pas autant de scrupules, et cependant j'espère que ma cousine Sophie ne se trouvera pas offensée si j'affirme qu'elle ne peut abhorrer toute espèce de mensonge plus que moi-même. Quant à ma tante, je ne crois lui devoir aucun respect, et elle n'en mérite aucun. Quoi qu'il en soit, monsieur, je vous ai dit mon avis, et si vous refusez de le suivre, j'en aurai d'autant moins bonne opinion de votre esprit. Voilà tout. » Jones vit alors clairement la faute qu'il avait commise et fit tout ce qu'il put pour la réparer. Mais il ne fit que bégayer et faire des phrases dénuées de sens et remplies de contradictions. La vérité est qu'il est souvent plus sûr de s'en tenir aux conséquences d'une première bévue que de tâcher de la réparer. Car nos efforts ne servent le plus généralement qu'à nous plonger plus avant dans l'embarras au lieu de nous en tirer. Peu de personnes auront en pareille circonstance un aussi excellent esprit que Mrs. Fitzpatrick, qui dit à Jones avec un sourire, « Vous n'avez pas besoin de chercher à vous excuser davantage, car je sais pardonner sans peine à un véritable amant, quels que soient les effets produits par l'excès de sa passion. » Elle lui renouvela alors sa proposition et l'appuya avec beaucoup de chaleur, n'oubliant aucun des arguments que son imagination put lui suggérer, car elle était si violemment irritée contre sa tante que rien ne pouvait lui procurer un plaisir égal à celui de la tourner en ridicule. Et comme une véritable femme, elle ne voyait aucune difficulté dans l'exécution de son projet favori. Jones persista cependant à ne pas vouloir se charger d'une entreprise qui, véritablement, n'avait pas la moindre apparence de succès. Il comprit aisément les motifs qui engageaient Mrs. Fitzpatrick à être si pressante. Il lui dit qu'il ne niait pas le tendre et vif intérêt qu'il prenait à Sophie, mais qu'il sentait trop l'inégalité de leurs positions respectives pour oser se flatter de l'espoir qu'une jeune personne aussi accomplie daigna condescendre à s'abaisser à un jeune homme aussi indigne d'elle. Il protesta qu'il désirait à peine lui-même qu'elle eût cette faiblesse, et termina sa réplique en développant 1000 autres sentiments généreux que nous n'avons pas maintenant le loisir d'insérer ici. Il y a quelques jolies femmes, car je n'ose parler ici en termes trop généraux, en qui le « moi » est si prédominant qu'elles ne le détachent jamais d'aucun sujet. Comme la vanité est le principe qui les dirige, elles sont portées à s'emparer de toutes les louanges qu'elles entendent, et à se les approprier, quoiqu'elles appartiennent à d'autres. Dans la société de ces dames, il est impossible de dire quelque chose d'avantageux d'une autre femme qu'elle ne se l'applique sur le champ. Souvent même, elles ajoutent en leur faveur aux louanges dont elles s'emparent ainsi. Comme par exemple, si sa beauté, son esprit, ses grâces, sa gaieté méritent tant d'éloges, combien n'en méritais-je pas, moi, qui possède ces qualités à un degré si étonnamment supérieur à elles? Auprès de ces dames, un homme fait souvent son propre éloge en faisant l'éloge d'une autre femme. Et tandis qu'il exprime l'ardeur et les sentiments généreux qu'il éprouve pour celle qu'il aime, elles se disent « Quel amant serait donc pour moi cet homme qui peut ressentir une si vive tendresse pour une femme qui a un mérite si inférieur au mien ?» Quelque étrange que cela puisse paraître, j'en ai vu d'autres exemples que celui de Mrs. Fitzpatrick, à qui tout cela arriva réellement, et qui commençait alors à sentir pour M. Jones quelque chose qu'elle reconnut pour être de l'amour, beaucoup plus tôt que ne l'avait fait autrefois la pauvre Sophie. Il est certain que la parfaite beauté dans l'un et l'autre sexe est un objet plus irrésistible qu'on ne le pense généralement. Car quoique plusieurs d'entre nous se contentent des moindres lots et apprennent par routine, comme les enfants qui répètent ce qui ne leur donne aucune idée, à mépriser l'extérieur et à estimer des charmes plus solides, j'ai cependant toujours observé qu'à l'approche d'une beauté parfaite, ces charmes plus solides ne brillent que de cette espèce de lustre que les étoiles conservent encore après le lever du soleil. Quand Jones eut fini ses exclamations, dont un grand nombre eût été fort bien placé dans la bouche d'Orondate lui-même, Mrs. Fitzpatrick poussa un profond soupir, et, détournant les yeux qu'elle avait eu quelque temps fixés sur Jones, puis les baissant, elle s'écria « En vérité, monsieur Jones, je vous plains. Mais c'est le sort affreux d'une tendresse comme la vôtre d'être prodiguée à des êtres qui y sont insensibles. Je connais ma cousine mieux que vous, monsieur Jones, et je dois dire que toute femme qui ne paie pas de retour une passion comme la vôtre, et ne sent pas le mérite d'une personne comme vous, est indigne d'inspirer l'une et de posséder l'autre. Sûrement, madame, vous ne pouvez penser... Penser, je ne sais pas bien moi-même ce que je pense à cet égard. Il faut qu'il y ait dans la véritable tendresse quelque chose qui tienne du sortilège. Peu de femmes la rencontrent chez les hommes ou en connaissent la valeur quand elles l'y rencontrent. Je n'avais jamais entendu jusqu'à ce moment professer des sentiments aussi nobles. Et je ne puis vous dire comment cela se fait, mais vous me forcez à vous croire. Il faut que celle qui peut dédaigner un mérite comme le vôtre soit la plus méprisable de toutes les femmes. Le maintien et le regard avec lequel tout cela fut dit firent naître dans le cœur de Jones un soupçon que nous ne nous soucions pas de communiquer littéralement au lecteur. Au lieu de répondre directement, il dit « Je crains, madame, de vous avoir fait une trop longue visite », et il proposa de se retirer. « Point du tout, monsieur. En vérité, je vous plains, monsieur Jones. Je vous plains de tout mon cœur. Mais si vous vous en allez, réfléchissez au projet dont je vous ai parlé. Je suis convaincu que vous l'approuverez. Faites au moins que je vous revoie aussitôt que vous le pourrez, demain matin si vous y consentez, ou du moins dans l'après-midi. Je serai chez moi tout le jour. » Jones se retira alors très respectueusement, et après lui avoir témoigné sa reconnaissance. Mrs. Fitzpatrick ne put s'empêcher de le gratifier à son départ d'un coup d'œil qui, s'il n'y comprit rien, suffirait pour prouver qu'il n'entendait absolument rien au langage des yeux. La vérité est que ce coup d'œil le confirma dans sa résolution de ne plus revenir chez elle, car tout vicieux qu'il ait paru jusqu'ici dans le cours de cette histoire, toutes ses pensées étaient alors tellement concentrées dans sa Sophie que je suis persuadé qu'aucune femme sur la terre n'aurait pu désormais l'entraîner à commettre le plus petit acte d'infidélité. Néanmoins, la fortune, qui n'était point son amie, voyant qu'il était déterminé à ne pas lui fournir une seconde occasion de le contrarier, résolut de tirer le meilleur parti possible de celle-ci et fit naître en conséquence l'accident tragique que nous allons raconter en prenant le ton lamentable qui convient à la circonstance. Chapitre 10. Conséquences de la visite précédente. Monsieur Fitzpatrick, ayant reçu de Mrs. Weston la lettre dont nous avons parlé, et se trouvant par ce moyen instruit du lieu où sa femme s'était retirée, retourna directement à Bath et en repartit le lendemain pour Londres. Nous avons déjà instruit le lecteur du caractère jaloux de ce gentilhomme. Il voudra bien aussi se souvenir du soupçon que Fitzpatrick avait conçu sur le compte de Jones à Upton, en le trouvant dans la chambre de Mrs. Waters. Et quoique des raisons suffisantes aient paru depuis détruire entièrement ce soupçon, le bel éloge de Jones, écrit de la main de sa femme, lui donna occasion de réfléchir qu'elle était aussi en même temps dans la même auberge, et mit dans une tête qui n'était pas des meilleures une telle confusion de faits et de circonstances que le tout produisit ce monstre aux yeux verts dont parle Shakespeare dans sa tragédie d'Othello. Or, comme il s'informait dans la rue de la demeure de sa femme et qu'on venait de lui indiquer sa porte, M. Jones en sortit malheureusement. Fitzpatrick ne se rappela pas d'abord le visage de Jones. Cependant, voyant un jeune homme bien mis sortant de chez sa femme, il alla droit à lui et lui demanda ce qu'il avait été faire dans cette maison. « Car je suis sûr, ajouta-t-il, que vous y avez été, puisque je viens de vous en voir sortir. » Jones répondit très modestement qu'il venait d'y faire une visite à une dame. Fitzpatrick répliqua « Quelle affaire avez-vous avec cette dame ?» Jones, qui reconnut alors parfaitement la voix, les traits et jusqu'à l'habit du personnage, s'écria « Ah, mon bon ami, donnez-moi votre main. J'espère qu'il ne reste pas de rancune entre nous à propos d'une petite méprise qui est déjà si ancienne. » « Sur mon âme, monsieur, dit Fitzpatrick, je ne connais ni votre nom ni votre figure. Ni moi non plus, dit Jones à son tour. Je ne connais point votre nom, mais je me rappelle très bien d'avoir déjà vu votre figure à Upton, où nous avons eu ensemble une sotte querelle qui est sans doute finie. Mais que dans le cas contraire, nous allons terminer tout à l'heure en buvant une bouteille de vin ensemble. À Hampton, s'écria Fitzpatrick. Ah, sur mon âme, je crois que votre nom est Jones.
Il est vrai.
Oh bien, sur mon âme, vous êtes justement l'homme que j'avais besoin de rencontrer. Sur mon âme, je vais aller boire une bouteille de vin avec vous, mais d'abord il faut que je vous donne un bon soufflet.
Voilà pour vous, monsieur le coquin.
Sur mon âme, si vous ne m'en donnez pas satisfaction, je vous en donnerai un autre. Tirant alors son épée, il se mit en posture de défense, seule science à laquelle il entendit quelque chose. Jones fut un peu ébranlé du coup auquel il s'attendait si peu. Mais, se remettant bientôt, il tira aussi son épée, et quoiqu'il n'entendît rien à faire des armes, il s'avança hardiment sur Fitzpatrick, écarta heureusement son fer, et lui passa la moitié du sien dans le corps. Celui-ci ne se sentit pas plutôt blessé qu'il fit un pas en arrière, laissa tomber la pointe de son épée, et s'appuyant dessus, s'écria « J'en ai assez, je suis un homme mort !»«
J'espère que non !» s'écria Jones.
« Mais quelles qu'en soient les suites, vous devez reconnaître que vous vous les êtes attirés. » En cet instant, plusieurs hommes se précipitèrent sur Jones et le saisirent. Il leur dit qu'il ne ferait point de résistance, et pria quelques-uns d'entre eux de vouloir bien au moins prendre soin du gentilhomme qui était blessé. « Ah oui !» cria l'un d'eux, « on prendra soin du reste du gentilhomme blessé, car je suppose qu'il n'a pas 2 heures à vivre. Quant à vous, monsieur, vous avez encore un bon mois pour le moins. »«
Diable, Jacques !» s'écria un autre.
« Il vient de mettre lui-même un empêchement à son voyage. Le voilà maintenant embarqué à un autre port. » Notre pauvre Jones devint ainsi le sujet de beaucoup d'autres plaisanteries de cette nature, de la part de ces hommes qui n'étaient point autres que des gens employés par Lord Fellamar, et qui, l'ayant vu entrer dans la maison de Mrs. Fitzpatrick, l'attendait au coin de la rue quand ce malheureux accident arriva. L'officier qui commandait cette bande conclut très sagement que son devoir était alors de remettre son prisonnier entre les mains du magistrat civil. Il le fit donc conduire dans une maison publique, d'où il envoya chercher un constable et le remit à sa garde. Le constable, voyant M. Jones très bien mis, et s'étant fait instruire que l'accident avait eu lieu à la suite d'un duel, traita son prisonnier avec beaucoup d'égards, et, sur sa demande, envoya s'informer de l'état du blessé, qui était alors dans une taverne entre les mains du chirurgien. Le messager rapporta que la blessure était certainement mortelle, et qu'il n'y avait pas d'espérance de lui sauver la vie. D'après ce rapport, le constable informa Jones qu'il fallait aller devant un juge de paix. Il répondit « J'irai partout où il vous plaira. Je suis indifférent sur ce qui peut m'arriver. Car, quoique bien convaincu que je ne suis pas coupable de meurtre aux yeux de la loi, le sang versé par ma main pèse sur mon cœur d'une manière intolérable. » Jones fut alors conduit devant le juge de paix. Le chirurgien, qui pensait M. Fitzpatrick, y parut aussi et déposa qu'il croyait la blessure mortelle. Sur quoi Jones fut mené à Gatehouse, une des prisons de Londres. Il était alors très tard, en sorte que Jones ne put envoyer chercher Partridge que le lendemain. Et comme il ne ferma pas l'œil jusqu'à 7 heures du matin, il était près de midi quand le pauvre garçon, déjà fort effrayé d'avoir été si longtemps sans apprendre de nouvelles de son maître, reçut de lui un message qui pensa le faire mourir de douleur. Il courut à Gatehouse, les genoux tremblants, le cœur palpitant, et ne fut pas plutôt introduit en présence de Jones qu'il déplora le malheur qui lui était arrivé, en versant un torrent de larmes et regardant à chaque instant autour de lui comme un homme frappé de la plus vive terreur. Car il venait d'entendre que M. Fitzpatrick était mort, et le pauvre garçon craignait à chaque minute que son esprit n'entrât dans la chambre. Enfin, il remit à Jones une lettre qu'il avait failli oublier, et que Sophie lui avait fait parvenir par les mains de Black George. Jones renvoya sur le champ tout le monde, et après avoir brisé le cachet de la lettre, lut ce qui suit. « Vous devez cette seconde lettre à un accident qui m'étonne, je l'avoue. Ma tante vient de me montrer une lettre de vous à Lady Bellaston, qui contient une proposition de mariage. J'ai la certitude qu'elle est de votre propre main, et ce qui m'étonne encore davantage, c'est qu'elle est datée de la même époque où vous vouliez me faire accroire que vous souffriez si cruellement pour moi. Je vous laisse commenter ce fait. Tout ce que je désire est que votre nom,
ne soit plus jamais prononcé à SW. Nous ne pouvons donner au lecteur une plus forte idée de la situation présente de M. Jones et des divers tourments qu'il éprouva alors qu'en lui disant que son malheur était à un tel degré que Thwackum lui-même en aurait eu, je crois, pitié. Mais quelque affreuse que soit sa situation, nous l'y laisserons pour le moment, suivant en cela l'exemple de son bon génie, s'il est vrai qu'il en eut un, et nous terminerons ici le 16e livre de cette histoire.